Bienvenue pour cette nouvelle émission Fenêtre sur le monde. Ravi de vous retrouver. Nous allons parler défense, OTAN, armée, armée française, armée européenne. Je vous reçois avec Adrien Dessuin qui est membre du comité de rédaction de Conflit, la revue Conflit qui est partenaire de cette émission. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les numéros de Conflit sur notre site internet revueconflit.com dans la boutique. Vous pouvez acheter nos numéros en format papier et en format numérique. Le dernier numéro de Conflit est consacré au cyber et vous pouvez aussi retrouver l'ensemble de nos anciens numéros. Nos deux invités cette semaine pour évoquer ces sujets de défense sont deux anciens ministres de la Défense, Charles Millon, Gérard Longuet. Merci à tous les deux. Vous avez chacun une longue carrière politique à la fois locale, M. Longuet est sénateur, et local, régional également, et puis vous avez occupé ce poste de ministre de la Défense, le gouvernement Juppé pour vous, et puis c'est le gouvernement de François Fillon il y a quelques années. On va donc aborder dans cette émission ces sujets de défense. On a beaucoup parlé notamment la question du Mali, la question de la présence des troupes françaises en Afrique de l'Ouest. On a vu aussi ce contrat Naval Group qui a été rompu par l'Australie, ce qui amène aussi à réfléchir sur la question de la souveraineté, de l'indépendance stratégique et puis de la place de la France et des rapports avec les alliés. Peut-être avant d'aborder ces sujets, une première question à chacun d'entre vous. Par rapport à ce que vous avez connu quand vous étiez en poste au ministère de la Défense, comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce ministère, des armées françaises aussi, de leur engagement et de la manière dont la place de l'armée aussi dans la société? Parce que vous étiez en poste, on était à la fin de la guerre froide, et donc il y avait cette idée de dividendes de la paix, d'hyperpuissance américaine. On en est très loin aujourd'hui. On voit que les choses ont beaucoup changé.
Pour ce qui est, en fait, de ma prise de fonction, les dividendes de la paix, on n'en parlait déjà plus. Puisqu'il y avait la guerre aux Balkans, c'était la guerre de Bosnie. On se rendait compte que dans toute la région balkanique, il y avait en fait des tensions qui apparaissaient. Elles ont donné lieu ensuite à la guerre du Kosovo. Et puis, on voyait déjà en Afrique apparaître des tensions qui ont donné leurs résultats aujourd'hui, avec une Afrique qui est complètement déchirée par des mouvements djihadistes ou des mouvements islamistes qui radicaux. Et donc on était déjà, les dividendes de la paix étaient déjà derrière nous. Par contre, moi j'ai eu une transition à faire, hein, c'est la transition entre l'armée classique et l'armée de métier, puisque j'ai présidé en tant que ministre à la suppression, suspension du service national, et qu'à partir de ce moment-là, on a complètement revu la configuration de nos armées. Et ça a provoqué des changements, bien évidemment. Des changements importants, puisque toute la partie qui était, j'allais dire, formation de la plaie, a disparu et au profit de la formation, en fait, de l'engagé, ce qui est complètement différent, puisque c'était d'ailleurs l'objectif de la réforme, c'est d'avoir, en fait, une armée qui puisse faire face, avec les moyens un peu sophistiqués, aux défis de l'époque. Donc voilà un petit peu ce que j'ai ressenti.
On ne parlait pas encore de guerre contre le terrorisme, mais ça, c'est arrivé après. C'est notamment les années 2000 où il y a cet engagement qui est aussi plus important.
Bah, c'est surtout le 11 septembre. À partir du le choc du 11 septembre, c'est la dimension internationale du terrorisme islamique et l'engagement, à travers l'OTAN d'ailleurs, de la France, parmi d'autres, dans l'affaire de l'Afghanistan. Je voudrais revenir sur ce qu'a évoqué Charles Millon avec beaucoup de raison. La chute du mur de Berlin, la dislocation de l'Empire soviétique, c'est quand même une révolution extraordinairement importante parce que la France et l'Europe, et ça explique, enfin l'Europe pour l'essentiel, la France et l'Europe ont cessé de se sentir sous la menace d'une invasion de leur territoire. Menace avec laquelle nous avions vécu depuis 1947 jusqu'en 1989 pratiquement. C'est-à-dire 40 ans, 42 ans de menaces soviétiques qui impliquaient un système militaire particulier. Charles a évoqué la suppression du service militaire. Sur le moment, moi, j'étais assez hostile à cette suppression. Et puis, quand j'ai pratiqué ensuite les responsabilités plus actives et naturellement celles du ministère de la Défense, je me suis rendu compte que nous ne pouvions engager au combat des appelés que pour la défense du territoire français. Je dirais même pas, peut-être des confettis de l'Empire si quelqu'un voulait nous les prendre, mais les opérations extérieures, et notamment celles que nous conduisons d'une façon constante, que ce soit pour les Balkans avant le 11 septembre ou après le 11 septembre au Sahel, en Côte d'Ivoire, moi j'ai connu la Côte d'Ivoire, la Libye, nous ne pouvions le faire qu'avec des engagés, parce que l'opinion française, et c'est sans doute notre point le plus faible, l'opinion française n'aurait pas accepté qu'on engageât des appelés pour ce type de combat. Or, et ça c'est quelque chose de très important, la discipline est la force des armées, toujours, et la discipline n'est acceptée que s'il y a la perspective du combat. Donc dire, ah oui, il faut former des jeunes, parce qu'au moins l'armée, ils vont apprendre ce que c'est, ils vont voir ce que c'est. Oui, ça marche si on doit combattre un jour. Mais si on sait qu'on ne combattra jamais, ça ne peut pas marcher. C'est tout. Et là, je crois que la France a bien compris. Et pour répondre très précisément à votre question, nous avons une armée de métier. La vraie question, c'est de savoir quelle est la politique de la France et quelles sont les ambitions de la France. Mais nous avons une armée de métier que nous sommes capables d'engager dans des conditions qui sont définies, qui sont d'ailleurs limitées, mais qui sont supérieures à toutes les possibilités de nos partenaires européens et qui ont été longtemps comparables à ce que la nouvelle armée russe pouvait faire. Je crois que maintenant, la nouvelle armée russe nous a dépassés. Mais, par exemple, l'entrée en premier, qui est la caractéristique de l'armée française, a été longtemps notre singularité. A été longtemps, je dirais, entre 2001 et aujourd'hui, 2020, pendant 20 ans, nous avons été sans doute les premiers et les seuls à pouvoir le faire. Et les Russes n'auraient pas pu faire ce que nous avons fait en Libye. En revanche, ils ont démontré, et c'est intéressant, à travers leur intervention en Syrie, qu'ils étaient capables de prendre le risque de mort pour des combats extérieurs. Et c'est un risque que nous ne prenons pas et que l'opinion française, à mon avis aujourd'hui, ne soutiendrait pas. Ce qui, évidemment, rend assez compliqué l'engagement des forces.
Alors, puisque vous évoquez la Libye, c'est une excellente transition. Nous avons fêté les 20 ans du... Enfin, fêté...
Marqué.
Commémorer les 20 ans du 11 septembre qui ont eu lieu dans des conditions tragiques à Kaboul, et on a eu le sentiment, je crois, en France, que c'était aussi la fin d'une période presque aussi importante que celle qui avait marqué à la fois 2001 et 1989, c'est-à-dire comparable à la sortie du Vietnam par les Américains, et donc la fin d'un cycle d'opérations tous azimuts de l'Occident en Libye, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, etc. Est-ce que...
Alors attendez, c'est pas l'Occident, enfin c'est les États-Unis d'Amérique. Je vous rappelle que la France n'était pas, et à raison, partenaire de la deuxième opération américaine en Irak. Nous avons été solidaires pour des raisons évidentes de sympathie, d'histoire, avec la volonté des États-Unis de casser cette base de terrorisme que constituait l'Afghanistan autour des équipes de Ben Laden. Mais on n'a jamais été leader. Enfin, le ticket français, c'est 5% de l'opération afghane, en gros, l'ordre de grandeur, à la louche. Non, je pense que...
C'est pas comparable avec des conflits africains, c'est peut-être ce que vous vouliez dire.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'en Afrique subsahélienne, nous nous sentons responsables, et je vous rappelle que nous avons des accords gouvernementaux. Quand on est en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a un accord avec la République de Côte d'Ivoire, et nous respectons cet engagement. Dans l'affaire de l'Afghanistan, comme dans la deuxième opération du Golfe, ce sont des décisions unilatérales des États-Unis, et je crois que ce que nous observons aujourd'hui, ce que la plupart des Français d'expérience savent, c'est que les États-Unis obéissent à leurs intérêts. Ça a été vrai après le traité de Versailles. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas ratifié la constitution de la SDN, dont ils n'ont jamais fait partie. La Deuxième Guerre mondiale, oui, ils sont intervenus fin 41, après que l'Allemagne leur ait déclaré la guerre. Le Japon a torpillé les États-Unis à Pearl Harbor, mais c'est l'Allemagne nazie qui a déclaré la guerre aux États-Unis. C'est pas l'inverse. L'ambassadeur des États-Unis était à Vichy en 41, enfin, alors que la France était occupée. Donc, on doit aux États-Unis et aux Russes la victoire sur les nazis, et tant mieux, cette solidarité était très utile, mais les États-Unis ont toujours défendu, en général, les politiques américaines.
Je ne vous fais pas dire. Ce que je voulais dire...
Ce qui me paraît normal, d'ailleurs.
Ce qui est normal, d'ailleurs, je vois pas pourquoi ils seraient...
Je pense que la
autres.
France devrait...
On ferait bien de temps en temps s'en espérer.
Mais, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y avait, pas, en tant que ministre de la Défense, une distorsion entre l'idée de se déployer à l'extérieur dans des conflits un peu exotiques face à un adversaire terroriste, etc., tout en voulant moderniser l'armée. Est-ce que c'était pas une difficulté? Parce que quand vous parliez de la Yougoslavie, les casques bleus, etc., on parlait de combat, de modernisation.
La Yougoslavie est un peu une illustration de ce qui s'est fait après, ce qui a été poursuivi par tous les ministres qui sont succédés. En Yougoslavie, on s'est rendu compte que d'aller combattre sous les couleurs de l'ONU était une catastrophe. Je crois qu'il faut être clair. La première décision du président Chirac, c'était de quitter, en fait, le commandement de l'ONU et de demander la mise en place d'une force de réaction rapide que j'ai développée sous les ordres du président. Et là, on a repris notre totale indépendance stratégique. Et on a vu que ça marchait, puisque à partir de ce moment-là, on est arrivé à retrouver d'abord notre honneur, puisqu'on était un peu déshonoré par des soldats qui étaient attachés à des poteaux et qui étaient en train de griller au soleil, qu'on a repris le pont de Verbania, etc. Donc je ne veux pas revenir sur l'histoire. Mais à partir de ce moment-là, on a compris que l'indépendance stratégique pour une nation comme la France était importante. Et vous regardez après, excepté le Kosovo, où ça a été à nouveau, à mon avis, une affaire pas tout à fait dans l'autonomie stratégique française, mais excepté le Kosovo, tout ce qui a été déroulé a été fait par décision des autorités françaises. Et je pense que c'est un tournant important. Or, on a pu le faire, pourquoi? Parce qu'on avait une armée de métier qui était équipée, qui était formée, qui avait les équipements les plus modernes qui existent. Tout à l'heure, Gérard Longuet parlait de l'armée française d'aujourd'hui. C'est la deuxième armée du monde, hein. Peut-être que les Russes nous ont doublés.
Il y a la Chine quand même, maintenant.
Oui, maintenant. Il y a une course avec la Chine et la Russie. Mais au moins dans le monde occidental, c'est la deuxième armée après les États-Unis. Et ça, il faut quand même le dire aux Français, c'est qu'ils ont une armée qui est une très belle armée, bien formée, bien équipée, peut-être sous-équipée même, et c'est la raison pour laquelle on peut repenser au budget.
Mais pour rentrer, c'est une chose. Pour rentrer dans un théâtre, on parlait d'entrer en premier, très bien. Mais là, ce qu'on voit avec l'affaire de l'Afghanistan, c'est que pour rester et puis pour sortir, c'est plus compliqué face à un adversaire qui est insaisissable.
Il n'y a pas de succès militaire s'il n'y a pas un projet politique. C'est aussi simple. Ça ne sert à rien d'envoyer des troupes parce que s'il n'y a pas un projet politique clairement défini, la tragédie indochinoise française... C'est l'absence de projet politique.
En Libye, il y avait un projet politique, selon vous?
Non, justement. Et en Libye, je ne considère pas que ce soit un succès. On a fait une opération de police fructueuse, les 15 premiers jours, c'est-à-dire qu'on a empêché ce que Kadhafi prétendait faire, c'est-à-dire massacrer les populations qui s'opposaient à lui. Mais une fois qu'on a obtenu ce résultat, qui a été de séparer les combattants, il a manqué cruellement de projets politiques. Alors, il ne faut pas être injuste à l'égard du président Sarkozy. Quand nous avons quitté au printemps 2012 le pouvoir, il y avait eu des élections en Libye, il y avait un parlement, il y avait la préparation d'une constitution, et je vous rappelle qu'il a été remplacé au mois de mai par le président Hollande qui s'en est pas occupé du tout. Bon, est-ce que ce système aurait fonctionné si le président Sarkozy était resté en place? On ne peut pas le
Probablement pas.
dire. On ne peut pas le dire. Mais
Est-ce
en
qu'on
tous
peut
les
avoir un
cas,
projet politique
quand il est
pour un
parti,
pays
ce n'est
étranger?
pas à lui. Alors, c'est une très bonne remarque. Est-ce qu'on peut avoir un projet politique pour un pays étranger? En effet, je ne le pense pas. Il faut trouver des alliés sur place. Et je vous rappelle que pourquoi la France a-t-elle réussi, en tel cas, colonisé toute une série de pays? On parlait de l'Indochine à l'instant. C'est parce que des conflits locaux ont conduit la France à être sollicitée comme arbitre. Pourquoi étions-nous en Indochine au XIXe siècle? C'est parce que les annamites, à l'époque, ça s'appelait ainsi, avaient, à juste titre, une certaine méfiance des Chinois, notamment des pavillons noirs, et ils nous ont demandé de venir les protéger. Donc là, il y avait un projet politique, c'était de soutenir le pouvoir local. Alors après, on a voulu remplacer le pouvoir local, c'est sans doute l'erreur. Ce que n'a jamais fait Lyautey, par exemple, au Maroc, où nous avons eu de l'influence, mais avec un projet politique, c'était de défendre la dynastie alaouite. On a défendu la dynastie chérifienne, enfin bon, le pouvoir en place, et on a joué notre rôle. Et lorsque la guerre de 14 est arrivée, Lyautey a dit non, mais j'ai pas besoin de troupes, c'est moi qui vais vous envoyer des troupes marocaines pour défendre la France. Ça prouve que le résultat politique, le projet politique avait abouti. On ne pourrait pas en dire autant. Regardez les Américains en Irak, c'est une tragédie parce qu'il y a trois blocs, kurdes, chiites et sunnites. Ils étaient incapables Les sunnites, de la plus grosse minorité, avec Saddam Hussein, qui assez habilement avait entretenu la fiction d'un Irak laïque, ce qui permettait de coexister les différentes religions. Quel est le projet politique de Bush Junior? Inexistant, et c'est la tragédie.
La question se pose aussi en Afrique de l'Ouest, où c'est le même principe, on vient aider, vous l'avez dit, par des accords des pays ou des populations. On a vu au Mali pour éviter la prise de Bamako, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite, surtout quand le pouvoir politique en place devient hostile ou du moins moins accueillant?
Mais il devient hostile. Pourquoi? Parce que, comme vient de le dire Gérard Longuet, le projet politique n'a pas suivi. Moi, je suis convaincu que, par exemple, au Mali, il fallait définir notre action de lutte contre le terrorisme et les djihadistes islamistes, mais en même temps, il fallait toute une politique d'accompagnement qui aurait dû être portée par le gouvernement malien, mais peut-être avec le soutien de la France, au niveau des écoles, au niveau de l'action sociale, au niveau de l'action d'infrastructure, etc. Parce qu'autrement, la population locale ne comprend pas, en fait.
Mais Charles, et puis il fallait même aller plus loin. Le Mali, qui est l'ancien Soudan français, est un pays dont la cohérence est faible. Et il y a eu. La décolonisation a reposé sur l'idée de ne pas remettre en cause
les
les
frontières.
frontières issues de la colonisation. En général, ça marche, mais pas partout et pas tout le temps.
Une partie du Mali était l'ancien empire marocain, par exemple, la partie
Oui, enfin, il
ouest.
était
Non, c'est pas
surtout
ça. C'est surtout que
non,
vous avez en
Touareg. Puis
haut,
les Touaregs du
vous avez
Nord,
en
oui.
haut les Touaregs, vous avez les Peuls et vous avez les Bambara. Et
Voilà,
comme les
exactement.
trois ne s'entendent pas, mais
Et puis, c'est pas le même mode de vie.
le pire héritage qu'on a fait à l'élite malienne, c'est le jacobinisme. Parce que quand on leur parle, ils veulent pas d'autonomie régionale, ils veulent pas de fédéralisme, parce qu'ils veulent nous copier. Alors c'est vraiment l'héritage le pire qu'on aura donné.
Est-ce que je pourrais changer légèrement de sujet et aborder aussi une question de ces 20-30 dernières années où vous avez été en poste, c'est le retour de la France dans l'OTAN. La normalisation de la... Enfin, quand on dit le retour de la
Qu'on a
France dans l'OTAN, on
intégré.
se comprend. La normalisation de la France dans l'OTAN. Parce que ça démarre à l'époque de Jacques Chirac, déjà qui
Ouais,
a
c'est moi,
cette idée.
j'ai négocié tout ça.
Voilà.
Ouais.
Donc, et ça débouche finalement à son jeu de mots à ce moment-là avec Nicolas Sarkozy. Quel bilan vous feriez-vous de ça, sachant que l'idée de départ de la négociation, si je ne me trompe pas, c'est de négocier une autonomie stratégique européenne en échange de cette normalisation.
C'est de négocier d'abord un commandement qui est donné à un amiral français.
Voilà, ça c'est l'idée de Chirac en tout
Ouais,
cas.
c'est ce que j'ai
Il l'a
négocié.
obtenu.
C'est le commandement de Naples. On s'est heurté. Non, mais il faut dire les choses qu'elles sont, puisque maintenant, c'est de l'histoire. On s'est heurté à un certain nombre de pays, je peux les citer, et principalement l'Italie et l'Espagne, qui ont dit, nous, on veut la protection américaine, mais avoir, en fait, des commandements français, ça ne nous intéresse pas du tout. Et qui sont opposés, en fait,
à... Bon, une raison très simple, c'est qu'ils n'ont confiance que dans la force des États-Unis. Mais l'Italie et l'Espagne ont des armées tout à fait respectables, mais ils veulent la sécurité américaine et considèrent qu'un amiral américain leur apporte une sécurité que la France ne leur apporte pas. Même chose avec les Pays-Baltes.
D'où l'échec, là.
Même chose avec les Pays-Baltes. Même chose, d'une certaine façon, avec la Pologne et à un certain degré avec les pays de l'Est, comme la Tchéquie, la Slovaquie, la Roumanie, c'est un peu moins vrai. Mais ce sont des pays qui ont la certitude absolue que leur sécurité dépend in fine des États-Unis et qui ne veulent prendre aucun risque d'isolement des États-Unis.
Mais ça veut dire que leur discours sur l'autonomie stratégique européenne, l'Europe de la défense...
Mais ça ne les intéresse pas du tout.
Même l'Italie et l'Espagne, qui sont des nations dont on entend souvent qu'ils veulent participer à l'Europe de la défense, etc.
Attends, d'abord, il faut définir ce que c'est que
l'autonomie... Non, mais même nous, on parle...
Non, mais l'autonomie stratégique européenne, c'est quand même une illusion de littérateur. Parce que il faut avoir un pouvoir politique. Or, il n'y a pas de pouvoir politique. Donc, ça fait plaisir au président.
Mais pourquoi la France est rentrée dans l'OTAN, alors, finalement ?
Parce que, à mon avis, pour une raison simple, c'est parce que le système soviétique ayant disparu, nous pouvions penser, à juste titre, que la crainte de l'Est diminuerait et qu'en diminuant, elle libérerait des Européens frileux de leurs inquiétudes et elle les rapprocherait d'une volonté européenne. L'expérience prouve que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que... Et je pense que l'affaire ukrainienne a été de ce point de vue... Il faut dire que la Russie ne nous a pas facilité les choses. Moi, je suis partisan d'excellents liens avec la Russie. Je sais ce que nous a apporté l'Alliance franco-russe en 14 et ce que nous a apporté le pacte germano-soviétique en 40. Donc, en 39, pardon. Donc je me fais aucune... Mais l'affaire de l'Ukraine, de la Crimée, avant elle de la Géorgie, des pays qui voulaient à tout prix rentrer dans l'Europe, voulaient rentrer également dans l'OTAN, on leur a fait des promesses. Et finalement, ces pays, au lieu de se dire « la Russie, on n'a plus de problème avec la Russie », ayant une vision globale, voyant un peu ce qui se passe dans le monde, on dit non, pas du tout, on a toujours un problème avec les Russes. D'ailleurs, quand nous avons vendu les bateaux, les deux Mistral à la Russie, moi j'étais à l'époque à l'hôtel de Brienne, les trois ambassadeurs baltes sont venus me dire « Attendez, c'est pas possible, ça. Vous êtes fous. »
Eux ont peur d'une invasion. Enfin, en tout cas,
ils ont peur d'une invasion.
Ils ont 20% de population russe.
Donc... Ils ont... Alors oui, puis alors les relations sont horriblement compliquées depuis toujours. Puis les frontières sont floues, les populations sont floues, les mouvements de population ont été très fréquents dans le passé, dans l'histoire. Regardez la Finlande, elle était russe jusqu'en 1918. Elle a réussi à préserver son indépendance, mais les pays baltes ont été indépendants en 18 et ont reperdu et sont redevenus dépendants en 39, 20 ans après, pour 70 ans.
Et il y a quand même une très forte minorité russophone, donc c'est pour ça qu'ils ont une crainte.
Oui, ils ont une crainte légitime d'ailleurs.
Et puis les pays sont même divisés. L'Ukraine, qui est un pays attachant, mais c'est quand même un pays où vous avez des orthodoxes qui dépendent de Moscou et des uniates qui dépendent de Rome et qui se regardent en chaîne de faïence depuis longtemps.
Alors aujourd'hui, les États-Unis expliquent à ces nations que, bon, la Russie c'est bien...
Mais ils n'ont même pas besoin de leur expliquer.
Mais c'est la Chine aujourd'hui qui les inquiète en premier. Et donc, ces pays-là s'inquiètent.
Alors, là vous posez la vraie question, c'est que pour les États-Unis, le sentiment contraire, et ça va vous faire parler d'Australie, j'ai pas parlé de Charles, le problème, c'est la Chine, parce que c'est des gens qui travaillent, qui réussissent, qui sont 1 milliard 400 millions. Bon, la démographie n'est pas terrible actuellement, mais enfin, c'est quand même beaucoup, beaucoup de monde. Et un niveau d'organisation et de détermination qui est quand même assez exceptionnel. Et qui a par ailleurs multiplié des formes de présence agressive en mer de Chine, par exemple. Donc, quand les Américains disent la Chine, c'est un vrai sujet, il faut les comprendre. Et lorsqu'ils quittent l'Afghanistan, c'est un peu pour dire, bon, bah, les Afghans, on a tout fait pour qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Manifestement, ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent faire leur petit commerce de drogue et de combine. Bon, on ne va pas se faire tuer pour ces gens-là. Et on s'en va parce qu'on va là où c'est important pour nous. Et c'est important pour nous en Asie-Pacifique. Pas dans une espèce de royaume de bandits au cœur d'une région qu'on ne contrôle pas et on n'a pas envie de mettre les pieds.
Non, puis je pense que la Chine a maintenant un projet expansionniste. Hein.
Donc, les routes de la soie.
Actuellement, elle est dans les ports de la Méditerranée.
Absolument.
Au Pirée, elle est au Trieste, à Trieste.
Essentiellement une expansion économique pour l'instant.
Ah, oui, mais de toute façon, elle est devenue un pays qui est expansionniste, alors qu'on
alors,
disait c'est, toujours que c'était l'Empire de l'Intérieur.
Pense, Charles. Oui, alors voilà, du temps de Giscard, que nous avons bien connu l'un et l'autre, Giscard nous expliquait toujours que l'Empire du Milieu, ça voulait dire pour les Chinois qu'ils étaient au milieu du monde, et que rien n'était mieux que de vivre au milieu du monde et au milieu du monde seulement.
Là, on s'aperçoit. Parce que disait Tersite dans son fameux essai.
Absolument. Là, on s'aperçoit, comme le dit Charles Millon, que les routes de la soie, les prises de possession, ça veut dire. En fait, c'est un pays qui a quand même besoin pour son économie d'une matière première, de matières premières au pluriel, qu'elle n'a pas. Et donc, a besoin de sécuriser ses approvisionnements. Et pour sécuriser ses approvisionnements, il faut une flotte. Et il faut d'autres accès, parce que pour sortir de l'océan Pacifique et aller vers l'Europe, par l'océan Indien, le détroit de Malacca, ça se contrôle très facilement. Ça, c'est quand même un petit détroit.
Elle est dans une situation quasiment enclavée, c'est-à-dire que justement...
Elle a le sentiment d'être enclavée, parce qu'en plus, vous avez en face de la Chine, la Corée, le Japon... Et Taïwan.
Et Taïwan.
Si vous ajoutez en bas des pays, j'évoquais l'histoire avec lesquels les relations ont toujours été difficiles, le Vietnam, moins les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, qui ont moins de contact avec la Chine, mais qui pourraient en avoir aujourd'hui parce qu'il y a des conflits sur l'espace maritime, vous avez tous les éléments qui font que le centre de gravité des tensions, à part l'islamisme, se déplace vers le Pacifique, pour les Américains comme pour les gens qui comptent. C'est-à-dire, où sont les gros bataillons, où sont les milliards, où sont les chiffres d'affaires, où est le PIB? C'est dans cette partie du monde.
Vous ne pensez pas légitime, si on se place à la place des Chinois, dire vous avez des bases américaines partout autour de nos frontières. Est-ce que ce n'est pas normal qu'on veuille, nous aussi, se dégager un peu de cette emprise
Mais les bases américaines, elles sont là-bas sur la demande
du Japon, de la Corée, etc.
Oui,
je suis bien
pays,
d'accord.
Bien sûr. C'est pas.
Il y a une base chinoise à Djibouti. Hein.
Oui, c'est la seule.
10 000 hommes, quasiment.
Ah oui, 10 000 hommes.
D'après les.
Nous,
les DGSE,
Français, on a plus grand-chose à Djibouti.
Non, un millier à peu près.
Ah, quand même.
Il y a trois bases.
Oui.
Oui, il y a tout le monde qui boutique.
C'est un lit d'espion.
Mercenaire.
Vous aviez abordé en début d'émission un sujet qui me paraît important. Vous dites il n'y a plus l'idée que des Français non militaires, donc les appelés du contingent, meurent au-delà de la défense du territoire national est quelque chose qui n'est plus accepté. Ce qui veut dire aussi que le rapport à l'armée ou le rapport à la guerre a évolué. Aujourd'hui, l'armée est un monde qui est peu connu, en dehors du monde militaire proprement dit, qui est un monde très cohérent, mais un Français d'une vingtaine d'années ne connaît rien à l'armée, si ce n'est sentinelle éventuellement, enfin c'est pas vraiment l'armée, mais enfin il voit un uniforme. Comment est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la compréhension de l'importance d'une armée, d'une défense, soit compris par tout le monde, parce que, maman fille, quand on vote un budget, par exemple, pourquoi est-ce qu'on dépense autant? Après tout, le Mali, c'est loin, la mer de Chine, c'est loin, pourquoi avoir une flotte, des sous-marins?
La première réponse, c'est de terminer la réforme de l'armée. Il était prévu, dans les lois de programmation successives, une réserve qui doit aller jusqu'à 400 000 hommes. On n'y est pas jamais arrivé, parce qu'on n'a pas voulu dégager l'argent. Je pense que si on veut réconcilier la nation et son armée, il faut la possibilité d'une vraie réserve, du type des réserves américaines ou des réserves d'un certain nombre de pays.
La garde nationale dont avait parlé le président.
C'est pas la même chose, non, une réserve.
C'est, moi, c'est une réserve.
Je vais vous donner un exemple. Millon a raison. Les médecins. Vous avez une réserve, alors les quantités évidemment sont moins importantes, mais de centaines de médecins qui font des périodes de militaires au Mali pour soigner, ou en Afghanistan. J'ai vu en Afghanistan des médecins réservistes.
Des médecins ingénieurs,
il y a des ingénieurs. Il n'y a pas assez de combattants, c'est vrai. Alors pourquoi? Peut-être
une raison. Ça coûte cher, déjà.
Ça coûte cher, et puis il y a une question d'âge aussi. C'est que vous crapahutez, vous pouvez opérer jusqu'à 55 ans, 60 ans, 65 ans. Pour crapahuter avec un équipement de combat, il vaut mieux avoir 35 ans
que
40, et il vaut mieux 40 que 45.
En opération extérieure,
alors,
on a
des gendarmes réservistes.
Ça coûte
en
très
France.
Cher d'envoyer des réservistes à l'étranger.
Ça coûte de l'argent, mais ça coûte moins cher. C'est un petit peu, pardonnez-moi cette comparaison, comme l'intérim. L'intérim coûte cher, mais ça coûte beaucoup moins cher que d'avoir du personnel permanent qui est utilisé une fois de temps en temps. Et là, la réserve, c'est vous prenez les gens, vous en avez besoin 3 mois, ben vous les payez 3 mois, vous ne les payez pas 12 mois par an.
Enfin, on avait
mais
passé,
ça coûte de l'argent.
On avait, passé des accords avec les entreprises, avec à l'époque le CNPF, CPME, etc. Et ça marchait très bien, et les entreprises étaient très contentes parce que ça motivait une partie de leur personnel, et ils avaient tous signé sans aucune réticence. Et je pense qu'on a tout intérêt, et qu'on aurait tout intérêt dans les années qui viennent, à aller jusqu'à cette réserve de 400 000 hommes.
Alors, je pose une question technique, Charles, j'ai pas la réponse. L'engager de l'armée de terre, c'est 3 ans minimum, je crois. Donc, si vous pouvez avoir un réserviste, si vous ne les prenez que chez les anciens EVAT, engagés volontaires dans la matière, ça n'est pas beaucoup, parce que des gens qui acceptent de faire 3 ans pour ensuite être réserviste, non. On pourrait imaginer un système plus souple avec une sorte de préparation militaire, avec une période active et ensuite des cycles. Mais il faut accepter ce que politiquement j'évoquais tout à l'heure, que des réservistes participent à des risques militaires effectifs. C'est-à-dire, excusez-moi, c'est sauter sur un engin explosif improvisé.
Comme c'est volontaire, c'est eux qui décident.
C'est eux qui décident, mais je pense qu'on aurait un problème avec... Il faudrait, alors, pour rétablir la question dans le sens de la question que vous posiez tout à l'heure, il faut que l'opinion française sache que le monde est cruel, que ne pas être capable d'utiliser la force dans certains cas conduit à subir une force médiocre d'une façon insupportable dans d'autres cas. Et donc le si vis pacem parabellum reste une vérité. Je pense que, je ne sais pas s'il faut 400 000, mais en tous les cas, avoir de vrais réservistes, ce serait un signal fort et un lien armée-nation judicieux.
Mais par exemple, l'opération Sentinelle, ça devrait être les réservistes qui devraient la faire.
Et c'est déjà un peu le cas.
C'est en partie le cas.
Oui, mais c'est pas. Ça, on pourrait le faire presque la totalité.
Si vous voulez,
mais
on a du mal. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est quelques dizaines de milliers. Il faudrait. Je pense pas qu'il y ait dans l'armée de terre et marine et aviation. L'aviation, c'est plus difficile. Marine et armée de terre. Je pense pas qu'on ait 50 000 réservistes disponibles. Alors que il faudrait doubler les effectifs actuels. Si on a 320 000 hommes, soldats, et des femmes dans les hommes.
Je change encore de sujet, Jean-Baptiste, si je puis me permettre, parce que il me semble que vous avez tous les deux vu aussi une évolution, mais vous allez me répondre parce que j'ai une interrogation là-dessus. Beaucoup disent, voilà, le chef d'état-major particulier de l'Élysée a pris une place de plus en plus importante dans le processus décisionnel. Vous qui avez été ministre de la Défense, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté ou pas? Ou c'est vraiment... Par rapport au chef d'état-major des armées qui travaille normalement directement avec le président, est-ce qu'il n'y a pas un conflit avec ce système à trois?
Il y a un cas de figure, je voudrais interroger, je prolonge votre question à interroger Charles, parce qu'il a servi Jacques Chirac. Et dans le premier mandat de Jacques Chirac, il y a eu 2 ans de pouvoir présidentiel avec Alain Juppé à Matignon, et il y a eu 5 ans de cohabitation avec Lionel Jospin. Par définition, tu n'étais plus à l'hôtel de Brienne, je crois que c'était Alain Richard. Mais est-ce que tu as eu des échos sur la situation sans doute plus difficile du chef d'état-major particulier qui était toujours en... Enfin, il y en avait un. Et comment pouvait-il...
Mais je pense que Chirac a gardé un peu son influence déterminante avec le chef d'état-major particulier qui était l'amiral Delaunay. Et... Non, il était parti déjà, je crois. Je me souviens plus bien des dates.
Et après, il y a eu Bintéja. Ah non, ça, c'était le chef d'état-major des armées. Je confonds tout. Il part trop longtemps pour
non,
moi.
Mais il a été aussi...
chef d'état-major
particulier, il a été les deux. Mais je pense pas qu'il y ait eu de grands problèmes. Je pense que Chirac a gardé, en fait, cette autorité naturelle du président de la République.
Et le président plus, de la République a toujours été le chef des armées.
Et en plus, les gens oublient. C'était le dossier qui l'intéressait le plus.
Oui, et puis je pense que Jospin n'a pas dû lui contester. Et en plus, ils étaient d'accord sur la deuxième...
Dessus. Il n'y a pas eu de conflit, en fait.
Ah oui, c'était Juppé qui était...
Mais le problème, c'était le Kosovo, parce que...
Oui, c'est le Kosovo.
Le Kosovo...
La deuxième guerre du Golfe, c'est...
Et après, il y a eu la Côte d'Ivoire.
Comment ?
Pendant la cohabitation, il y a aussi la Côte
d'Ivoire.
Oui,
il y a eu la Côte d'Ivoire, mais le Kosovo, je pense que ça a dû être une souffrance, et pour le chef d'état-major et pour Chirac, parce que c'est l'OTAN qui a pris tout en main, et finalement, la France a été suivie.
D'ailleurs, les socialistes disent...
Ce que je voudrais dire, c'est que le quinquennat a quand même changé les données. C'est-à-dire que moi, j'ai connu des gouvernements de cohabitation. Il n'y avait aucun problème. C'est le Premier ministre qui dirigeait. Et c'était donc le chef d'état-major des armées qui dirigeait. Et les militaires sont suffisamment astucieux pour ne pas entretenir de conflits inutiles entre le chef d'état-major particulier et le chef d'état-major des armées. Mais le pouvoir était à Matignon qui négociait, et je l'ai vu entre Balladur et Mitterrand, c'était un peu compliqué puisque l'affaire turquoise a été gérée pendant la cohabitation. Il semblerait que le président Mitterrand avait des idées assez personnelles sur le sujet qui n'étaient pas forcément celles du Premier ministre, qui lui-même n'avait pas le temps et l'implication totale sur ce sujet. Avec le quinquennat, et moi je l'ai vécu avec Nicolas Sarkozy, le pouvoir du président est un pouvoir quasi absolu. Une majorité législative sans risque, pas de rendez-vous intermédiaire aléatoire, comme nous l'avions vécu en 86 ou en 81, et donc un président qui a été les pouvoirs. Et c'est vrai que pour le ministre de la Défense que j'étais, la marge de manœuvre était relativement étroite. En fait, ma seule source d'autorité, c'était que j'étais à temps plein sur le métier, alors que le président de la République était intermittent de la défense. Et comme j'avais de bonnes relations avec le président de la République que je servais, Nicolas Sarkozy, assez rapidement, et le chef d'état-major particulier, qui était Pugat, et le chef d'état-major des armées, et le patron de la DGSE, ont compris que discuter avec moi, c'était une façon de préparer la discussion avec Nicolas Sarkozy. Mais j'aurais pu être complètement bypassé. Le ministre aurait pu être complètement bypassé, enfin court-circuité, s'il n'avait pas eu de relation vraiment personnelle avec le président de la République, avec un président qui disait « bon,
C'était un peu le cas d'Hervé Morin avant
je
vous.
Je ne porte pas de jugement.
Qui avait des relations moins cordiales sans doute avec Nicolas Sarkozy.
Oui, je pense que Nicolas, que je connais bien dans son caractère, devait considérer qu'il donnait des ordres à son chef d'état-major et à lui de gérer le ministre, le SEMA et ainsi de suite.
C'est que moi j'ai eu la chance que Chirac m'ait fait une entière confiance pendant 2 ans. Il m'a complètement
délégué. Mais Chirac
délégué.
Était, moi je l'ai eu comme Premier ministre, c'est un homme qui vous disait, bon ben tu fais ce que tu dois faire et tu fais pas le con. Et après, vous aviez carte blanche.
Ah, c'est très très agréable. C'est moi qui allais lui demander de temps en temps son avis, ses orientations, mais si jamais il n'a intervenu, jamais. Durant les 2 ans, il n'est jamais intervenu.
Alors que par exemple sur l'affaire libyenne, c'est un secret de Polichinelle,
c'était Alain Juppé qui était un peu
Alain Juppé et moi étions l'un et l'autre dans une réunion de l'OTAN à Bruxelles, une réunion mixte ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense. et je lui tape sur l'épaule et je lui dis, j'avais mon iPhone, je lui dis, tu aurais pu quand même me prévenir que la France allait reconnaître le gouvernement de l'opposition libyenne, je ne sais pas comment il s'appelle, le comité, je ne sais quoi. Bon, il me dit, quoi, on l'a reconnu?
Oui, mais c'était BHL directement avec
c'était
Sarkozy.
C'était BHL sortant du bureau de Nicolas Sarkozy qui fait une conférence de presse pour dire que le gouvernement français a reconnu. Alain Juppé ne le savait pas.
Il réagit d'ailleurs, il y a les médias qui lui posent la question, il réagit de façon un peu...
Un peu sec.
Et vous, comment vous avez réagi? Je ne me souviens plus.
Avec philosophie, vous savez. Je connais Nicolas depuis longtemps.
Mais voir Bernard-Henri Lévy... cette initiative, comment est-ce que vous l'avez jugé?
Ça m'a permis de demander à Nicolas s'il lui avait également vendu la solution politique pour la Libye.
C'est ce qu'il a fait, il a vendu, mais une fausse idée.
Il a rien vendu du tout, il a porté à bout de bras des gens qui étaient de bonne volonté, mais qui ne représentaient absolument rien localement.
Ce que vous soulignez, c'est aussi la... Enfin, on sort un peu du question stricto sensu de la défense, mais c'est la question du pouvoir politique, où le rapport entre le président et ses conseillers, et puis les ministres, enfin, dans un gouvernement, que ce soit la défense ou d'autres postes ministériels aussi.
Non, mais ça signifie surtout que le caractère des chefs d'État compte. Vous avez des chefs d'État qui délèguent, et c'est d'autres qui ne délèguent pas.
Il y a le caractère, je suis d'accord avec toi. Il y a les institutions.
Et puis il y a les institutions.
Et les institutions telles qu'elles sont vécues... sont une centralisation absolue sur l'Élysée, ce qui est une tragédie française. Je le considère profondément, parce que c'est pas tragique pour l'armée. J'ai presque envie de dire que pour la défense, c'est, à la limite, c'est pas gênant. Sous la troisième comme sous la quatrième, le président de la République était chef des armées, comme sous la cinquième d'ailleurs. La différence, c'est que l'action était conduite par le gouvernement et par l'Assemblée. La guerre de 14, par exemple, c'est le gouvernement parlementaire qui a géré la guerre de 14. Alors, il y avait le chef d'état-major...
Mais à l'époque, c'était un régime parlementaire.
C'est un régime parlementaire. Mais je veux dire par là qu'on peut très bien diriger une action militaire avec un gouvernement issu d'une légitimité parlementaire. Ça ne pose pas de problème. C'est un peu plus compliqué en apparence. En réalité, ça permet vraiment de discuter et débattre. Et les militaires l'acceptent, sauf qu'en de 14 à 18, si vous regardez la façon dont la guerre a été conduite, il y avait une tension entre le chef d'état-major, le commandant en chef, que ce soit Joffre au début, Foch, Pétain et... Nivelle, malheureusement. Le système présidentiel français aujourd'hui est plus adapté, il faut le reconnaître, à une société de l'immédiat. Parce que ce qui a changé, c'est que un événement en Côte d'Ivoire est connu en temps réel de tout le monde en quelques heures et la réaction doit être absolument immédiate. Et de ce point de vue, force est de reconnaître que tout milite sur la centralisation présidentielle. Mais cette centralisation présidentielle est une source de fragilité en même temps, parce que un président, quelles que soient ses capacités personnelles, son caractère, n'est pas en mesure de tout gérer tout le temps avec la même disponibilité d'esprit.
Et le Parlement, justement, quelle est sa place dans cette question de défense?
Pour l'instant, il ne joue... il joue le rôle de... Il vote les lois programmes. C'est vraiment son... Et là, le gouvernement a commis une erreur. Madame Parly devait modifier la loi de programme. Elle a essayé de le faire en dehors du Parlement. Je crois qu'elle a eu tort parce qu'elle aurait eu un vote unanime, enfin, en tous les cas, très largement majoritaire, y compris au Sénat, où le gouvernement n'est pas nécessairement bien vu. Mais là, elle aurait eu un vote. Et là, elle a refusé ce vote. Je crois qu'elle n'a pas eu raison.
Il y a... Au-delà du vote, le Parlement a son mot à dire sur une opération militaire, ou pas sur le début, mais sur la conduite ensuite, ou c'est vraiment une discussion
Le ministre est obligé de tenir informé la commission, c'est même une obligation.
Et puis tous les événements sont examinés par la commission de la défense. de l'Assemblée ou de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères, et puis les questions d'actualité sont là, non. Et puis Nicolas Sarkozy a fait une réforme constitutionnelle, je ne me rappelle plus à quelle époque, en 2007 ou 2008. Le gouvernement est obligé de demander un vote sur une intervention au bout de 3 mois ou 4 mois.
Oui, c'est après, oui, c'est ça. Ouais.
Après. A
posteriori,
après.
Oui.
Mais par exemple, il faut voir la différence. Quand nous avions l'affaire libyenne qui démarrait, mon collègue allemand me dit, mais vous pouvez choisir. Nous, c'est la commission de la défense de Bundestag qui décide. Et je n'ai pas de majorité pour cela. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour François Hollande. Quand il a voulu intervenir en Syrie en représailles contre le débombardement chimique
en Syrie
par le gouvernement de Damas, les Anglais, le Parlement anglais dit non. Et le Sénat américain dit non. Alors que les
oui, c'est Obama, c'est l'époque où Obama a dit
oui,
mais a changé d'opinion.
Il souhaitait y aller, mais effectivement, il a changé du jour au lendemain, oui.
Et il a mis en porte-à-faux Hollande qui croyait suivre Obama.
Qui était en Angleterre, c'était
Theresa May, sans doute.
Cameron. C'est Cameron.
Moi, j'avais une question aussi sur vous, en tant que ministre de la Défense. Vous avez sans doute été confronté à la liberté d'expression des militaires ou au devoir de réserve des militaires.
Oui, j'ai eu, moi.
Vous avez dû sanctionner, j'imagine.
Oui, j'ai sanctionné.
Vous avez dû sanctionner. Et on dit souvent quand même que les militaires, bon, c'est la grande muette, mais qu'ils ont aussi une liberté d'expression, qu'ils doivent participer au débat. Alors comment est-ce que vous avez vécu ça et comment est-ce que vous voyez les choses maintenant?
Bon, je pense qu'ils peuvent s'exprimer sur des sujets qui ne doivent pas mettre en porte-à-faux le pouvoir politique. Donc c'est soit des questions techniques, soit des questions d'organisation, soit des questions de prévision ou de réflexion. Et moi, la seule fois où j'ai été obligé de sanctionner, c'est parce qu'en fait, il y a un général qui a porté jugement sur l'action du gouvernement et que je lui dis bon, que dans ce cas-là, il fallait qu'il respecte son obligation de réserve. Mais
par exemple, sur la tribune récemment, il y a eu une tribune de généraux à la retraite qui était sanctionnée dans Valeurs Actuelles, je crois.
D'abord, ils sont à la retraite, donc c'est complètement différent.
Ah voilà, non, mais c'était un peu la question que je
non,
vous posais.
Ils étaient en deuxième section.
Ils sont
devenus retraités.
Voilà.
Je crois qu'il y en a trois qui étaient en deuxième section. Et tous les autres étaient. Ce n'étaient pas des généraux, d'ailleurs, c'était des officiers.
Et en plus, c'était pas sur des sujets militaires, c'était sur des sujets de société. Au fond, ils expliquaient que la société d'aujourd'hui ne leur convenait pas. Ce qu'on peut d'ailleurs parfaitement comprendre, hein, personnellement. Mais simplement, on n'utilise pas plus qu'un magistrat ou un préfet ou un conseiller d'État ne doit utiliser son autorité morale de haut fonctionnaire pour dénoncer des faits politiques qui relèvent du jugement politique, c'est-à-dire du Parlement, de la vie publique, mais pas du point de vue d'un haut fonctionnaire. D'ailleurs, je veux dire très honnêtement, je pense qu'il faudrait remettre un petit peu d'ordre dans les systèmes juridiques. C'est pas les critiques des militaires qui me viennent le plus, c'est quand je vois des gens qui n'ont pas de compétences particulières renvoyer en justice l'État parce que le gouvernement n'en ferait pas assez pour sauver la planète. Il y a un moment où il faut quand même réfléchir un petit peu. D'ailleurs, le Conseil d'État vient de tirer le sonal d'alarme.
Oui, parce qu'il y a façon de critiquer.
Non, alors sur l'armée, je voudrais vous dire autre chose qui est plus subtile que ces critiques extérieures, c'est que l'armée, et il faut éviter cela, est une communauté qui risque de se fermer sur elle-même. Et moi, je suis assez imprégné de culture militaire, et de culture historique, donc j'étais assez à l'aise avec les traditions, les habitudes, le corps, les flex. Mais c'est pour ça que l'histoire de la réserve est très importante. Il faut que l'armée soit aussi fréquentée par des gens dont ce n'est pas le métier exclusif. Et c'est pour ça que les réservistes sont utiles. L'IHEDN est très utile parce que ça permet à des officiers de voir la société civile et ça permet à la société civile de voir l'armée. Il faudrait multiplier ces occasions d'échange pour que les militaires se rendent compte que les civils ne sont pas tous des flemmards désordonnés et que les civils se rendent compte que les militaires ne sont pas des nuques épaisses et fermées sur les réalités du monde d'aujourd'hui.
L'école de guerre, depuis 4 ou 5 ans, maintenant a un contingent de militaires civils qui suivent d'ailleurs le
Et
programme des
certains
militaires.
officiers font même le programme Young Leader de la French American Foundation.
Oui. Tant que la NSA s'en sert pas pour pénétrer nos services, ça me va très bien.
Mais est-ce que vous parliez tout à l'heure de la Première Guerre mondiale? C'est typiquement une période, et même après la Première Guerre mondiale, où on a le sentiment que les officiers généraux, participent davantage au débat public. Pas toujours pour caresser, j'allais dire, dans le sens du poil, le pouvoir ou répéter, enfin, juste être porte-parole. Et vous ne sentez pas qu'il y a une régression un peu par rapport à cette période-là, parce que cette créativité militaire, elle est aussi
Oui, alors
nécessaire
je crois qu'il y a la grande différence, si vous voulez, c'est que
pour la faire évoluer.
jusqu'à la chute du mur de Berlin, qu'on le veuille ou non, la défense, c'était la défense du territoire français. Alors c'est vrai avec l'Allemagne de Guillaume II, c'est vrai avec l'Allemagne d'Hitler, c'est vrai avec la Russie de Khrouchtchev ou de Brejnev. Et donc, lorsqu'un militaire parle de défense, il parle de défense du territoire. Donc il est écouté par les gens qui vivent sur le territoire. Et qui en 14 ont le mauvais souvenir de 70, qui en 39 espèrent qu'on sera aussi bon qu'en 18, et qui dans les années 50 se disent comment si le rideau de fer s'ouvre, est-ce qu'on sera capable de résister et quelle sera la validité de la défense nucléaire américaine et française. Pour ça d'ailleurs que les Allemands sont assez prudents à l'égard nucléaire, parce qu'ils avaient parfaitement compris que leur territoire servirait de champ d'affrontement. Aujourd'hui, les enjeux n'ont plus cette proximité.
C'est
Alors,
le
se
syndrome guerre
battre.
d'Algérie, peut-être?
Pardon?
C'est peut-être le syndrome guerre d'Algérie. Souvent, on prend cet exemple-là pour dire,
Non,
bah, c'est à ce moment-là que ça s'est fermé.
non, non. Les guerres coloniales n'ont pas été comprises, mais c'est parce que la colonisation n'a pas été comprise. La colonisation est une affaire dont les Français sont peu occupés. Ni au moment de la colonisation, ni au moment de la décolonisation. C'était une activité qui était portée par une minorité de pour, une minorité de contre, et les gros bataillons français ne s'en sont pas occupés. Parce que, bon, moi, c'est un secret pour personne, j'ai commencé ma vie comme jeune militant Algérie-française, très à droite. Très honnêtement, je me rends compte, je me suis quand même fourré le doigt dans l'œil, parce que j'ai de la sympathie pour les peuples qui étaient sous notre autorité, mais il y a quand même des situations plus compliquées que d'autres. J'évoquais le Maroc, on a réussi une colonisation parce qu'on était peu présents. L'ambiguïté de d'autres colonisations, c'est qu'on ne savait pas très bien ce qu'on faisait, mais on ne savait pas très bien parce qu'aucun gouvernement ne le savait vraiment. Par exemple, là sur l'affaire d'Algérie, le président Macron a commencé très fort en expliquant que c'était la colonisation, un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, il est en train de nous expliquer que la rente mémorielle sert à des gouvernements mafieux pour cacher leur nullité. Dans les deux cas, ça me paraît assez carré comme position. Je lui laisse la responsabilité de ses jugements dans les deux cas. Mais l'une des raisons pour lesquelles, et ça je ne l'avais pas compris du tout, beaucoup de musulmans en Algérie n'avaient pas la nationalité française à laquelle ils pouvaient prétendre, comme la communauté juive, de Crémieux n'excluait absolument pas les musulmans, sauf qu'il fallait qu'ils renoncent à la charia. Et ils ne souhaitaient pas renoncer à la charia, et nous, Français, on payait d'ailleurs toute l'institution locale, judiciaire, traditionnelle, avec une charia sans doute sans mutilation, mais les caddies étaient payés par le gouvernement français. Donc l'Algérien, il ne savait pas où il en était, et le Français, il ne savait pas où il en était. Personne ne comprenait, on n'a pas choisi. Et à force de ne pas choisir, on se retrouve dans une situation qui est complètement paradoxale. Donc pour revenir sur l'affaire d'Algérie, on a tous lu la guerre psychologique, la guerre révolutionnaire, tout ça, c'est le fond du problème, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Et on n'était pas capable de répondre à cette question, aussi bien en Indochine qu'en Algérie. En Afrique, c'était relativement
En
simple.
Indochine, si on avait suivi Leclerc, ça aurait été complètement différent.
Sans doute. d'Argent-Lieu. Le Clerc aurait négocié avec Ho Chi Minh.
Oui,
et sans doute aurait-il obtenu gain de cause.
Exactement.
Sans doute, je partage ton avis.
Et puis pour ce qui est de l'Algérie, on est rentré dans le raisonnement que tu appelles de tes voeux à partir des années 56. Mais c'est vrai qu'avant, on n'avait pas fait assez, on n'avait pas réfléchi à comment une colonie.
Et moi, ce que je reproche au général de Gaulle, c'est qu'il connaissait la situation. D'ailleurs, avec beaucoup d'esprit, il était aussi à l'élection du président de la République au suffrage universel en disant qu'on sera élu, le prochain dans 30 ans sera élu par les Algériens. Mais on lui prête cette phrase, en tous les cas. Mais il aurait fallu le dire plus tôt pour éviter de mettre l'armée dans une situation impossible et l'administration française dans une situation impossible. Qu'on n'engage pas des gens parce qu'une guerre civile, c'est très cruel, très très cruel. On n'engage pas des gens à se battre avec vous contre leurs frères, il faut bien le reconnaître, ou leurs cousins, si on sait qu'on va partir.
C'est une bonne question. Est-ce que les armées d'aujourd'hui doivent se préparer à une guerre civile? Puisque Éric Zemmour parle de guerre civile, etc. Enfin, c'est un sujet qui est dans le débat quand même. Est-ce que vous, en tant que ministre de la Défense, vous pensez qu'il faut, par exemple, vous aviez parlé de réserve sur le modèle suisse, un peu, c'est-à-dire une armée qui est plus tournée vers l'intérieur que vers l'extérieur?
Je n'y crois pas du tout. Je crois en revanche que la France peut être confrontée à des systèmes communautaires fermés sur eux-mêmes, oui, ça c'est sûr, avec des degrés différents de revendications.
Mais sans que l'armée participe
non, l'armée
au règlement de cette question-là.
Non, non, l'armée n'est pas du tout outillée pour cela.
De toute façon, l'organisation de la défense...
L'armée, elle est faite pour tuer les adversaires.
L'organisation de la défense en France est très claire. L'armée française n'est pas faite pour pouvoir se battre sur son territoire.
Pour le défendre, éventuellement.
Elle est faite pour le défendre, mais elle n'est pas faite pour séparer les Français.
Non, ça c'est le rôle du ministère de l'Intérieur.
Je suis assez d'accord
avec
vous.
C'est le gendarme mobile, c'est la gendarmerie,
la police, etc.
Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir évoqué ces questions de défense. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver nos autres émissions sur notre chaîne YouTube ainsi que nos derniers numéros sur notre site internet revueconflit.com, dans notre boutique en ligne, notre numéro actuel qui est consacré au cyber ainsi que tous nos anciens numéros en format papier et en format numérique. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.